Bonjour à tous, ici Justine et Justine sur 93.9 Radio Campus Paris et vous écoutez Les Sens de l'Art.
Explorez les liens qui unissent art et musique. Notre interprétation est-elle sensible à cette écoute?
Retrouvez-nous un mercredi sur 4 à 18h pour découvrir de nouveaux artistes selon la lettre du jour.
Lettre D, vers les portes de l'inconscient. Ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode où nous vous proposons de vous pencher un peu plus sur l'invisible de notre monde. Une notion qui alimente les débats créatifs, particulièrement fertiles au lendemain de la Première Guerre mondiale. La quête de l'inconscient est alors plus que jamais nécessaire pour débloquer les rouages de l'esprit humain et comprendre la folie nouvelle du siècle. Êtes-vous prêt à traverser les portes vers une perception plus claire?
The movie will begin in 5 moments, the mindless voice announced. All those unseated will await the next show. The program for this evening is not new. You have seen this entertainment through and through. You've seen your birth, your life and death. You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on?
Nous pouvons voir émerger au XXe siècle une multitude de mouvements artistiques en réaction au traumatisme et désordre commun de la guerre. Les dadaïstes, en 1916 par exemple, convoitent la folie par des performances déjouant les frontières du langage. Et ce n'est donc pas anodin de voir en 1919 des premiers contacts entre les futurs surréalistes André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupeau et les dadaïstes. Le surréalisme naît dans ce contexte précis de l'entre-deux-guerres et de la naissance de la psychanalyse. Cette doctrine s'oppose à la psychiatrie en vogue et elle est développée par le docteur Freud. Il y entreprend à cette époque des recherches sur les grands névrosés de la guerre. Dans une approche totalement novatrice, il souligne la possibilité d'un conflit intérieur de l'ancien moi, pacifique contre le nouveau moi soldat, plaçant alors la folie comme réflexe naturel de survie. Le développement de la psychanalyse a pour conséquence de repenser l'esprit humain dans sa totalité et la notion d'inconscient ouvre de nouveaux champs des possibles. En 1915, André Breton est mobilisé à l'hôpital de Nantes pour s'occuper des grands blessés. Il parvient à se faire intégrer au centre neuropsychiatrique et prend alors connaissance de ses théories. Passionné, il convainc Louis Aragon, rencontré en 1919, de les appliquer au champ de la littérature. C'est le début de leur aventure commune qui se scindra par la rédaction du Manifeste du surréalisme, paru en 1924.
Le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
Dans cette interview, Breton récite presque machinalement la définition qu'il donne à son mouvement, à l'image de l'automatisme qu'il défend. L'impact, voire la citation claire des théories de Freud, est considérable. Dans le manifeste, nous pouvons lire « Il faut rendre grâce aux découvertes de Freud, c'est à très juste titre qu'il a fait porter sa critique sur le rêve. Les surréalistes appliquent des réflexions scientifiques au champ des arts et en font un nouveau processus de création picturale. Ce qui les intéresse, c'est la possibilité d'exploiter le nouveau monde du rêve pour retrouver une forme pure du langage et renouer avec la folie primitive de notre enfance. » Dans une lettre à Stefan Zweig, en 1938, Freud lui-même avoue ne pas comprendre cet engouement ni la réelle nature du mouvement. « J'étais tenté de tenir les surréalistes qui apparemment m'ont choisi pour saint patron, pour des fous intégraux, disons à 95%, comme pour l'alcool absolu. » Le surréalisme traite d'une surréalité ou réalité supérieure qui s'exprimerait via la convocation du rêve ou, selon leurs termes, de l'automatisme psychique de la pensée. Ils y recherchent un art faisant état de notre inconscient même, sans conviction esthétique, une manière également de contrer le rationalisme qui a mené notre monde à la guerre. Si ces principes peuvent vous paraître obscurs, c'est probablement que les surréalistes même se sont perdus dans leur définition. En réalité, l'inconscient est un sujet toujours assez inconnu et les artistes surréalistes cherchent à atteindre une folie qu'ils ne peuvent réellement obtenir. Un des meilleurs moyens pour eux d'activer cet automatisme est par ce qu'ils appellent les sommeils hypnotiques. Il s'agit de plonger la personne dans un sommeil immédiat, entre conscience et inconscience, et de lui poser une série de questions. En résulte alors une œuvre d'art unique, mêlant dessin et écriture, dans un état de sincérité la plus totale. Avec le surréalisme, il s'agit donc de passer de l'autre côté de la perception par l'expression artistique. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Juillet 1965, le soleil écrasant de Venice Beach ramollit les cervelles et deux anciens étudiants de l'université de UCLA se rencontrent fortuitement sur la plage. L'un d'eux, Jim Morrison, de son vrai nom James Douglas Morrison, est aspirant poète. L'autre, Ray Manzarek, vient de finir sa licence de cinéma. À cette époque, Morrison erre dans les rues de LA à la recherche d'inspiration, shooté sous dose quotidienne de LSD. Passionné de Rimbaud, qui voyait dans ces substances un moyen de dérégler les sens, Morrison les consomme pour nourrir sa quête de l'éphémère et se couper du monde physique. Manzarek, joueur d'orgue curieux, demande alors à Jim d'entendre ses fameux poèmes en musique. Ce dernier s'agenouille, saisit de ses deux mains des poignées de sable et débute les vers de ce qui deviendra Moonlight Drive.
Swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love, it's our time to try. Park beside the ocean on our
Le groupe initial est alors formé. Morrison déclare « On s'appellera les Doors ».
Les Doors tout court ?
Exactement. Il est intéressant de voir que déjà, en 1965, Morrison évoquait le projet de monter un groupe de rock appelé « The Doors Open and Closed ». Les musiciens joueraient plongés dans le noir à la lumière des bougies, aux musiques frôlant le sensationnel. Un univers sonore qui mêlerait valeurs chamaniques, rythmes de tambour indien, sonorités orientales, occidentales et blues classiques, le tout accompagné d'encens et de projections de films pour une expérience extrasensorielle à l'image de la prise de drogue. La genèse de cette obsession pour la notion de porte se retrouve dans les pages de son carnet. Morrison relève le nom de Aldous Huxley, écrivain et sociologue anglais, qui, en 1954, fait paraître son expérience des drogues sous le titre de The Doors of Perception, traduit par les portes de la perception. Huxley observe alors la levée de toute barrière vers une perception plus claire des choses qui nous entourent. Notre cerveau opère quotidiennement un tri pour ne contenir que les informations nécessaires, nous empêchant d'atteindre l'essence réelle des choses. Déjà en 1793, le poète romantique anglais William Blake disait dans son ouvrage « Le mariage du ciel et de l'enfer » « Si les portes de la perception étaient purifiées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Car l'homme s'est refermé sur lui-même jusqu'à considérer toute chose par les brèches étroites de sa caverne. Huxley emprunte alors le terme de porte de la perception qu'il entend dépasser par cette expérience sensorielle. Il s'agit d'accéder au royaume du divin, le domaine de l'infini, en activant son troisième œil et atteindre la perception réelle, sans filtre de notre monde. La substance miracle et salvatrice semble donc être la clé ouvrant les portes scellées de notre perception. Ce n'est pas anodin si une drogue telle que la mescaline appartient à la classe des psychédéliques, comme le sera plus tard le LSD. Ce terme de psychédélisme est développé en 1957 par Humphrey Osmond qui introduit Huxley à la mescaline. Dérivé du grec psyché, signifiant conscience ou âme, et délos, traduit par purifié ou visible, ce nouveau mot exprime les effets obtenus par la substance et se retrouve évoqué dans cette formule magique. Pour sonder l'enfer ou faire jaillir l'angélique, prenez juste une pincée de psychédélique. Il connaît une grande résonance dans le langage des années 1960 et se retrouve très rapidement repris par le milieu rock. Il peut être relevé pour la première fois dans l'album The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator du groupe The 13th Floor Elevators, paru en 1966. Le rock psychédélique émergent des années 1960 vise à reproduire les trois effets principaux d'un trip sous LSD. La dépersonnalisation, la sensation de dissolution du temps et l'effet de mouvement continu. L'apogée du trip étant la dissolution du moi, les musiciens répondent aux recherches sur l'accroissement de l'esprit. Ils incorporent de nouveaux effets sonores électriques, comme la pédale fuzz produisant des variations sur les riffs de guitare, le phasing qui diminue ou intensifie des fréquences et les échos. Nous retrouvons également diverses influences comme le blues, la musique indienne et de longues improvisations et solos pour favoriser la transe. On repousse les limites de la musique pour instaurer un nouveau rapport au public. Les Doors excellent en ce genre. Leurs paroles presque surréalistes, empruntées aux théories freudiennes et jungiennes, sont soutenues par le piano Fender Rhodes, double synthé et basse de Ray Manzarek, qui contribue alors à instaurer leur singularité musicale. Au même titre que Jim Morrison, Breton, Aragon et Soupeau convoquent la poésie pour explorer les méandres de notre esprit.
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall.
Le langage a été donné à l'homme pour qu'il en fasse un usage surréaliste.
He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you Mother, I want to come on.
Selon moi, la création de mode n'est pas une profession, mais un art. Telle est la devise de Schiaparelli dans son ouvrage autobiographique « Shocking ». Permettez-moi de vous présenter une couturière qui a su démontrer son talent et son imagination dans une période de recherche artistique et de contexte en proie aux doutes existentiels de l'entre-deux-guerres. Les années 30 voient naître les plus célèbres échanges entre art et mode. Nous allons donc nous y pencher un peu plus ensemble. Par cet assaut vers l'inconscient, des collaborations émergent. Schiaps en fait partie et n'est donc pas une inconnue du groupe des surréalistes. Tout débute alors en 1919 à New York, où sa rencontre avec Gabriel Buffet Picabia, sur le paquebot même se dirigeant vers la Grosse Pomme, l'amène à Man Ray. Chez elle, Man Ray découvre un sujet brouillant la frontière entre modèle et muse. Elsa Schiaparelli trouve un partenaire visuel capable de traduire ses créations. Le fruit de cette collaboration peut alors se traduire tout d'abord avec le portrait de la couturière. La tête posée sur un torse de plâtre, elle devient le visage de l'article nommé « L'âge de la lumière » dans les numéros 3 et 4 de la revue Minotaur, lancée par André Breton et publiée par Albert Skira. En 1936, Man Ray crée pour Elsa Schiaparelli deux paires de lunettes en spirale, véritable accessoire surréaliste. L'une de ces lunettes, hypnotique, est en métal, l'autre paire est réalisée dans un cuir torsadé Ross Shocking.
Une collaboration des plus importantes et des plus connues reste celle avec l'artiste surréaliste Salvador Dali à partir de 1936. Le thème le plus audacieux est assurément le homard que Dali intègre la même année dans son œuvre la plus célèbre, le téléphone homard inspirant un motif textile. Pour sa collection de 1937, une robe de soirée émerge qui sera portée par la future duchesse de Windsor. Mais cela atteint son paroxysme lorsque Schiaparelli applique avec succès la méthode paranoïa critique de Dali. Une méthode spontanée de connaissances irrationnelles fondée sur l'association interprétative critique des phénomènes délirants, à savoir la possibilité de lire la même configuration visuelle de deux façons différentes ou plus. Le chapeau-chaussure, lancé par Schiaparelli pour sa collection de 1937-38, opère le rapprochement des deux extrémités du corps humain. En accord avec l'accent que mettent les surréalistes sur l'érotisme et la signification cachée de l'objet, Dali souligne en 1931 les associations fétichistes du soulier féminin, transfert du désir inavoué. Le chapeau-chaussure peut alors être compris comme une chaussure ou comme un chapeau, mais jamais les deux à la fois, par le biais d'un glissement permanent et déconcertant entre le haut et le bas. Ce qui relie Schiaparelli aux surréalistes n'est pas la science de la forme, mais plutôt l'importance majeure que reconnaît cette nouvelle école de pensée à l'imagination, au jeu libre de l'inconscient et la juxtaposition d'éléments insolites pour générer la métaphore poétique. C'est donc une femme surréaliste.
Mais s'il était temps d'accorder un regard aux femmes surréalistes en tant que telles, Schiaparelli crée pour les femmes, certes, mais il n'est pas sans rappeler que la femme couturière est quelque peu minoritaire dans ce milieu. Schiaparelli se voyait elle-même comme une artiste et Cristobal Balenciaga l'identifie comme telle. Son approche était conçue comme un médium artistique qui se rapprochait de la sculpture. Elle travaillait directement avec le tissu, le drapant sur un mannequin en le modelant jusqu'à obtenir l'effet désiré. La matière était selon elle le point de départ de ses créations. Elle relatait par ses termes. L'interprétation d'une robe, les moyens de la confectionner et la réaction surprenante de certains matériaux, tous ces facteurs, aussi bons soit l'interprète, vous réservent invariablement une légère, voire une amère déception. Dans une certaine manière, c'est encore pire si vous êtes satisfaite car une fois créée, la robe ne vous appartient plus. Une robe ne peut pas simplement rester accrochée au mur comme un tableau. Le plus souvent, elle devient un objet indifférent, voire une pitoyable caricature de ce que vous vouliez qu'elle soit, un rêve, une expression. Son penchant surréaliste peut néanmoins s'affirmer par ce témoignage de ses souvenirs d'enfance. Comme on lui répétait sans cesse qu'elle était laide et sa sœur jolie, Schiap finit par le croire et chercha des moyens de se rendre belle. Avoir le visage recouvert de fleurs, tel un jardin paradisiaque, comme ce serait merveilleux. Elle serait la seule au monde à être ainsi. Non sans mal, elle se fit donner des graines par le jardinier et elle les planta dans sa gorge, dans ses oreilles, dans sa bouche, et elle attendit le résultat. Affolée, sa mère fit venir le médecin pour qu'il enlève rêve et illusion à sa petite fille trop imaginative. Le rêve ainsi prend part dans ses créations, une caractéristique surréaliste pour sûr. Mais pourquoi cette folie féminine est réfrénée quand celle des hommes est reconnue, voire acclamée ? L'essence de l'art, un mercredi sur 4 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Well, she's fashionably lean.
and she's fashionably late. She'll never wreck a scene. She'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No tears, no fears, no ruin years, no clock.
Dali déclare « Le surréalisme, c'est moi !» Armé de sa longue moustache montant presque jusqu'aux oreilles, les yeux fanatiques, de discours saccadés, son mode de vie, sa maison et même ses œuvres, tout affirme chez la figure de Salvador Dali une folie assumée, voire recherchée et nourrie. Mais est-ce là l'expression du surmoi qui se déclenche ou bien la simple confection d'une image presque publicitaire de son art ? Un épisode célèbre et qui vaudra son exclusion du groupe cristallise cette image de l'artiste fou. En 1934, il défie les limites en peignant une image érotique d'Hitler. Convoqué devant l'Assemblée des surréalistes pour son prétendu hitlérisme, il arrive un thermomètre à la bouche. Se disant fiévreux, il enlève plusieurs de ses vêtements et se met à genoux devant Breton avant de déclarer « Si je rêve de nos ébats amoureux cette nuit, je peindrai nos meilleures positions amoureuses avec le plus grand luxe des détails ». Presque à titre d'aveu, il dira postérieurement lui-même « La seule différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou ».
Quant à Jim Morrison, le roi lézard, il est célébré pour son attitude désinvolte mais attractive. Adepte des drames jungiens, il se confond avec ses personnages au caractère dionysiaque et se perd dans la fête, les excès et l'ego. Le point culminant de cette folie n'est sans aucun doute le concert tenu par les Doors à Miami le 1er mars 1969. Jim arrive avec un retard considérable et complètement ivre. Face à une salle trop chauffée et surchargée de monde et incapable de chanter, il digresse entre chaque musique et finit par insulter le public. Le tout dégénère réellement lorsqu'il menace d'exhiber son entrejambe. Le doute plane encore quant au geste, mais le concert se finit par l'intervention de la police. Ce qui aurait pu être la fin du groupe se clôt finalement par son succès de scandale. Morrison reçoit le soutien de nombreux fans, ils reprennent les tournées seulement 3 mois après l'incident et l'album The Soft Parade devient disque d'or en juillet. Cherchait-il à tester les limites de ses théories sur la psychologie des publics ? Lui qui voulait user du rock pour profondément modifier les valeurs sociétaires américaines se trouve une nouvelle fois excusé. Après tout, Jim Morrison le disait lui-même « Je suis le roi lézard, je peux tout ».
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.
Mais la femme ne bénéficie pas du même traitement, car vue par le prisme masculin, elle en épouse les codes et sur le champ de l'art, elle est le plus souvent reléguée au seul rang de muse. Un des meilleurs exemples est Leonora Carrington. Sa rencontre avec l'artiste surréaliste et dadaïste Max Ernst en 1936 marque le début de son aventure folle au sein du mouvement, mais également de son isolement dans la posture de muse. Ils ne restent que 5 ans ensemble, mais cela suffit à conserver cette image de Leonora. Elle intègre le surréalisme en 1937, à seulement 20 ans, et incarne alors pour Breton la quintessence de l'amour fou. La femme surréaliste par définition, indépendante, folle et libre. Elle est sauvage et magique, femme-enfant et femme-sorcière. Au lieu de souligner son indépendance, il substitue cette liberté par une vision masculine fantasmée de la féminité. Une célèbre photographie de Man Ray présentant les quatre muses surréalistes exprime parfaitement cette idée. On y retrouve Leonora, accompagnée entre autres de Lee Miller, la muse mythologique alors endormie et laissée à l'abandon de son peintre. Leonora se déjouait pourtant de cet acronyme. Je n'avais pas le temps d'être la muse de qui que ce soit, j'étais trop prise par ma révolte contre ma famille et trop occupée à essayer de devenir une artiste. Dans son autoportrait dit « Auberge du cheval de l'aube » de 1937-38, elle réfute ses attentes qu'elle subit en tant que femme dans la société. Représentée les cheveux ébouriffés, elle fait face à une hyène aux mamelles protubérantes qu'elle pointe du doigt. Le miroir est alors activé. En tant que femme, elle est censée assumer son rôle de nourricière. De même, elle est assise sur un fauteuil aux pieds chaussés d'escarpins rouges, une double entente érotique qui rapporte au caractère sensuel attendu chez les femmes. La figuration d'un cheval blanc, jouet tendre de son enfance, galopant en extérieur, exprime ce besoin de liberté. Sa posture de muse est aussi dénoncée dans son tableau « Bird supérieur », portrait de Max Ernst de 1939. Ernst y est figuré un globe à la main, isolant un cheval blanc à bascule. Le même cheval se retrouve figé dans la glace en arrière-plan. La lecture est alors évidente, Leonora dénonce cette posture dont elle souffre, qui la fige et l'empêche d'être pleinement artiste. Cette posture de muse que l'on calque sur sa personne l'enferme dans une position inactive et nie totalement sa pratique en tant qu'artiste affirmée.
En ce sens, Schiaparelli se fonde sur le corps de femme à partir duquel elle construit sa poétique féminin-féministe. Son travail consiste à remodeler la réalité et l'illusion, à mettre en évidence les courts-circuits entre ce que voit l'œil et ce qu'imagine l'esprit. La mode devient inévitablement ce territoire commun et libre où elle met en scène une nouvelle féminité, inhospitalière, problématique et contradictoire. Et c'est précisément le corps féminin, terrain de jeu des surréalistes, qui donne forme à une modernité différente, générée par les visions de l'inconscient dans une déclinaison du chaos qui amplifie les rêves et les désirs. Des impulsions contraires se réconcilient dans la définition d'une féminité multiforme qui, pour affirmer sa puissance, joue tantôt sur l'innocence, tantôt sur l'érotisme. Ce terrain de jeu peut également s'aborder avec l'artiste oublié Meret Oppenheim. La charge érotique que Meret Oppenheim a provoquée en 1936 dans le monde des arts avec sa tasse, sa soucoupe et sa cuillère recouverte de fourrure est l'essence même du surréalisme. Elle partageait le même cercle artistique que celui de la couturière. L'anecdote est la suivante. À seulement 23 ans, Meret Oppenheim se retrouve au Café de Flore avec Pablo Picasso. Ce dernier découvre le bracelet en fourrure que l'artiste a imaginé pour la couturière et ajoute que la fourrure pourrait recouvrir n'importe quoi. L'idée est née. Meret réalise alors un objet d'art qui reflète parfaitement les discussions de l'époque sur la sexualité et sur l'identité, mais surtout sur les prémices de la libération des femmes. Au milieu des désirs et des rêves de cette période, l'artiste parvient à exprimer les faiblesses d'une société encore hésitante quant à son attitude envers la question homme-femme. Et si nous nous amusions à confronter le chapeau-chaussure et le déjeuner en fourrure lors d'une exposition ? Ces deux éléments illustrent à eux seuls deux artistes engagés dans la lutte éternelle des femmes, avides de conquérir une identité claire et sans concession.
Leonora convoque alors le folklore irlandais, les contes anglais et son imagination d'enfance dans ses œuvres qui prennent l'allure de rébus. Elle participe à l'exposition internationale de surréalisme à Paris et à Amsterdam. Pourtant, lorsqu'elle n'est pas reconnue comme muse, elle est retenue pour sa folie. En effet, suite à l'arrestation de Max Ernst par les autorités françaises, Leonora sombre dans une dépression nerveuse.
You're a lost little girl. You're a lost little girl. You're lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Yeah, sure that you know what to do.
Au cours d'une escapade en Espagne avec des amis, elle relate subir une dissociation de son corps et de son esprit au passage de la frontière espagnole. Arrivée à Madrid, elle subit une tentative de viol par un agent nazi. Se sentant alors investie d'une nouvelle mission pacifique face à la haine grandissante, elle rencontre le consul d'Angleterre pour dénoncer Hitler et compagnie, mais ce dernier sera à la source même de son internement. Leonora est alors placée à l'hôpital psychiatrique de Santander, où elle donne un sens symbolique, biblique et cosmique aux différents pavillons. Elle y subit des traitements, la plongeant dans une folie irrémédiable. Elle parvient à s'échapper de cet asile avant de s'exiler aux États-Unis. Son bref séjour à New York est marqué par un comportement des plus étranges. Des récits relatent qu'elle se serait enduit les pieds de moutarde ou aurait même pris une douche habillée en plein milieu de conversation. Ce comportement de folie assumée est pour Leonora une manière de renaître complètement en tant qu'artiste surréaliste, se détachant alors de sa posture de muse, ayant réellement fait l'expérience de la folie. Une exposition est ouverte depuis le 18 février au Musée du Luxembourg sur l'artiste. Aujourd'hui encore, bien que les choses changent, trop de femmes sont exposées dans les musées à travers leur posture de femme et surtout par le prisme de leur relation amoureuse. Pourtant, une femme artiste n'est pas intéressante par le simple fait qu'elle soit femme dans une société d'hommes, bien que cela soit valeureux, mais parce qu'elle est simplement artiste. Au même titre que les hommes ne sont pas étudiés pour être des hommes à succès dans leur discipline, les femmes devraient être étudiées pour leur génie sans avoir sans cesse recours au genre.
Après vous avoir plongé dans le domaine de l'inconscient, théorisé et imagé tant par la pratique artistique de l'entre-deux-guerres que par la musique du rock psychédélique, nous avons à notre tour essayé de vous faire comprendre en quoi ces frontières pouvaient redonner une valeur aux femmes artistes. Certes, les femmes ont eu tendance à embrasser cette folie pour légitimer leur art. Pour autant, elles ont pu connaître la désuétude jusqu'à sombrer dans la folie irréversible. Aujourd'hui, notre époque n'est-elle pas en proie au doute existentiel qui nous plongerait dans un nouveau surréalisme ?
Nous vous invitons à présent à vous procurer une œuvre de l'émission se rapprochant le plus de votre esthétique surréaliste. Sera-t-elle textile ou picturale ? Laissez parler votre inconscient sur cette musique finale. Voici Strange Days.
Strange days have found us. Strange days have trapped us down. They're going to destroy our casual joy. We'll be right back.
Ce deuxième épisode est à présent terminé. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous êtes parvenus à traverser les portes de la perception.
Retrouvez-nous le mois prochain pour une troisième émission, toujours sous l'inspiration de la musique et pour une nouvelle perception de l'art.
L'essence de l'art.
Une nouvelle perception des œuvres par la musique.